Le journal présenté par Alexandre Rossé.
Bonjour, l'initiative anti-burqa va pouvoir entrer en vigueur. Le Conseil national a adopté ce matin le projet de loi élaboré par le gouvernement. Le texte prévoit des exceptions et des amendes allant jusqu'à 1000 francs. Le projet de géothermie profonde ne doit pas être écarté sans être étudié. Les socio-chrétiens appellent à développer les énergies renouvelables. Les deux candidats au Conseil national de l'ancien PEV Jura étaient invités aujourd'hui dans notre matinale spéciale. Young Boys a bien tenu le choc, mais les Bernois ne sont pas parvenus à rivaliser avec Leipzig. IB s'est incliné 3-1 hier soir lors de la première journée de la Ligue des Champions, l'occasion d'adapter son jeu en vue des prochains matchs. Un soleil généreux sera au rendez-vous cet après-midi. Les températures s'annoncent chaudes avec des maximales de 24 degrés en plaine et 21 sur les hauteurs. La pluie fera son retour demain en fin de journée. L'interdiction de se dissimuler le visage va pouvoir entrer en force en Suisse. L'initiative populaire a été acceptée par 51% des votants en 2021 et le Conseil national a mis ce matin sous toile la loi d'application. Il sera interdit de se cacher le visage dans les lieux publics ou accessibles au public, mais toute une série d'exceptions est prévue, par exemple dans les lieux de culte pour garantir sa sécurité ou à des fins artistiques. L'UDC était l'un des seuls partis à soutenir l'initiative populaire. Elle est aujourd'hui satisfaite de son application, selon le conseiller national Michael Buffa.
Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une loi au niveau fédéral qui soit mise en place pour appliquer cette initiative. Aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Donc, je pense que oui, effectivement, on respecte la volonté de la population qui ne veut pas qu'on puisse se dissimuler le visage sur l'espace public.
Pour vous, ce n'était pas une option de finalement laisser chaque canton décider comment appliquer la loi?
Non, je pense que ça aurait été trop compliqué d'avoir 26 législations différentes. Je pense qu'il fallait vraiment un cadre uniforme au niveau suisse pour appliquer cette loi afin que, par exemple, les personnes qui viennent de l'étranger, les touristes ou comme ça, ne soient pas totalement désorientés.
Les Verts et quelques libéraux radicaux ne voulaient pas de cette loi d'application. Ils ont refusé d'entrer en matière. Les explications de la conseillère nationale verte, Nathalie Imboden.
Alors c'est clair, on respecte la décision du peuple. Ça veut dire qu'on doit mettre en vigueur maintenant la décision. Nous, on s'est opposé sur la question qui va appliquer. C'était aussi discuté avant la votation que c'est les cantons qui doivent mettre en œuvre maintenant cette décision. Nous, on trouve toujours que c'est mieux de rester sur cette ligne parce qu'il y a quand même des différences entre les cantons et on avait promis de le faire dans ce sens-là. Maintenant, la Confédération et le département ont changé et la majorité a décidé de faire une application, une mise en œuvre sur le plan national et ça, on voulait rester sur la ligne qu'on avait avant.
Un sujet de notre correspondante à Berne, Marie Viomier. La loi prévoit que les personnes qui se dissimulent le visage en public risquent une amende jusqu'à 1000 francs. Le développement du réseau routier doit aller de l'avant. Le Conseil des États est entré en matière ce matin sur les montants demandés par le Conseil fédéral pour les projets d'extension de l'étape d'aménagement 2023 et pour l'entretien des routes de 2024 à 2027. Près de 5 milliards de francs sont demandés pour les projets d'extension. Le Conseil des États, qui a par ailleurs refusé l'idée d'un péage au Gothard, il a rejeté par 15 voix contre 8 et 13 abstentions une motion du président de l'UDC, Marco Chiesa. Des spécialistes externes en enquête pénale doivent être associés au traitement des cas d'abus dans l'Église. Cette collaboration est souhaitée par l'organisation fêtière des Églises cantonales, selon une annonce faite aujourd'hui. Celle-ci a dit vouloir placer le soutien aux victimes avant le souci d'image de l'Église. Après les révélations de ces dernières semaines, il y a une profonde incertitude parmi les membres de l'Église et le public sur le fait de savoir si un changement de culture est vraiment intervenu chez les évêques. C'est ce qu'a admis le secrétaire général de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, Urs Brosi, les précisions à Emily Mumenthaler.
En charge d'une enquête au sein de l'Église, l'évêque de Coire, Joseph Bonnemain, devrait ainsi être assisté par une personne externe compétente en matière d'enquête et d'instruction pénale, ayant par exemple travaillé pour la police ou le ministère public. Interrogé par la radio suisse alémanique SRF, Urs Brosi a également plaidé pour la mise en place d'un bureau de signalement indépendant pour les victimes, situé en dehors des locaux et des structures de l'Église. Le secrétaire général de la RKZ a en outre jugé que l'Église devrait également pouvoir engager des collaborateurs divorcés, remariés, homosexuels ou vivant en concubinage. La pratique actuelle, qui ne le permet pas, cache une morale sexuelle problématique qui fait partie du système à l'origine des abus sexuels, selon lui.
L'Université de Zurich a publié il y a une semaine une étude documentant 1002 cas d'abus sexuels au sein de l'Église catholique en Suisse depuis le milieu du XXe siècle. Et selon les chercheurs, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Tamedia va biffer 28 postes en Suisse romande. Cette réorganisation concerne 24 heures et la Tribune de Genève, selon une annonce faite aujourd'hui par l'éditeur. Une procédure de consultation a été lancée. Et puis à l'étranger, les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ont annoncé ce matin qu'ils allaient déposer les armes dans le cadre d'un cessez-le-feu. Ils négocieront par ailleurs dès demain la réintégration de cette région disputée à l'Azerbaïdjan. Un accord annoncé après une médiation des forces russes de maintien de la paix. Les socio-chrétiens, anciennement PEV Jura, veulent un environnement intact, une cohabitation respectueuse et des familles fortes. Ce sont les trois thèmes qui sont portés par leurs candidats au Conseil national dans le Jura. Philippe Sirot et Frédéric Nicolet étaient ce matin les invités de notre matinale spéciale consacrée aux élections du 22 octobre à la Chambre du Peuple. Leur liste est apparentée à celle du centre. Les socio-chrétiens plaident pour un développement des énergies renouvelables comme le solaire, l'hydraulique ou encore l'éolien. Ils ne s'opposent pas au projet de géothermie profonde à Haute-Saône, comme l'explique Philippe Sirot.
C'est un projet qui est à étudier, en tout cas. Je crois qu'il n'y a aucune énergie qui a le zéro risque, donc il faut regarder tout ça. Et puis surtout, ne pas se bloquer sur aucune source renouvelable. Autrement, si on se bloque à ce niveau-là, on pourrait avoir le même genre de problème avec les éoliens qui détériorent la vue de certains. Donc, il ne faut pas se bloquer à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut vraiment que nous fassions, que c'est de rentrer dans une démarche d'économie d'énergie, c'est de réduire la consommation. On sait qu'à tous les niveaux, il y a moyen de réduire. Et puis là, c'est quelque chose qui est sous-estimé quand on entend notre ministre fédéral de l'énergie qui dit « il faudra toujours plus d'énergie, toujours plus d'électricité ». Non, il y a moyen de faire autre chose.
Mais Frédéric Nicolet, vouloir réduire la consommation dans une Suisse dont la population augmente, dont les besoins en énergie et aussi en électricité augmentent, est-ce qu'on n'est pas là dans l'incantation pure et simple plutôt que dans l'efficacité? Est-ce qu'on peut vraiment réduire la consommation?
On peut y arriver aussi grâce à l'innovation, grâce à de nouvelles technologies. On voit ce qu'on a pu faire au niveau réduction d'éclairage public, par exemple. Les communes ont réduit drastiquement leur consommation d'énergie. Aussi en coupant une partie de la nuit ou en abaissant la nuit. Donc il y a des solutions qui sont là, des solutions technologiques, et puis il faut les utiliser. Ça, c'est encore autre chose, voilà.
Une autre matinale spéciale consacrée à l'élection au Conseil national accueillera demain les candidats de l'UDC Jura. Et à l'instar des socio-chrétiens, l'Association des entreprises électriques suisses estime que les projets d'énergie renouvelable ne se développent pas assez vite en Suisse. Ceux qui sont en cours ne suffiront pas à atteindre la production nécessaire à l'horizon 2050, alerte ce mercredi l'entité. Reporter l'ouverture de la patinoire de Moutier à mi-octobre au lieu de mi-septembre dès l'an prochain. La proposition formulée vendredi dernier par Prévost Glace a provoqué de vives réactions au sein des sociétés sportives utilisatrices d'une part, mais également au conseil de ville de Moutier lundi soir. Face à ces critiques, le président du conseil d'administration de Prévost Glace appelle au calme. Pour lui, les arguments en faveur d'une ouverture reportée de la patinoire sont autant de nature économique que technique. Jacques Stalder.
Ce qui a déclenché ce problème, c'est qu'on a eu une diminution des subventions de la ville de Moutier pour la patinoire de 25 000 francs. Donc ça a posé un premier problème. Après, on sait tous que l'électricité va prendre l'ascenseur. On a pris 20% en 2023, on va reprendre 20% en 2024. Donc ça veut dire qu'à la place de demander une aide auprès de la ville de Moutier, on aura un manque de 45 000 francs. Puis c'est pour ça que nous, on tire la sonnette d'alarme pour essayer de trouver des solutions. Le but, c'est pas de faire en sorte que le HC Moutier soit puni. Mon fils, il joue dans la première équipe du HC Moutier, donc c'est pas moi qui vais punir mon fils. Mais je pense qu'au niveau financier, ça pose un très gros problème. Puis au niveau technique, c'est extrêmement compliqué de faire de la glace le 12 septembre. On a commencé de faire la glace le 5 septembre. Il faisait 28 degrés dehors. On doit amener la glace à moins 8. Donc c'est pour ça, vous avez vu, Cadlémont, ils n'ont pas pris le risque de peur d'avoir des soucis avec leur compresseur. Voilà ce qui s'est passé.
Prévost Glace qui milite pour une ouverture à la mi-octobre de toutes les patinoires de la région avec une adaptation des championnats de hockey. Il y a 4 siècles, la région était dévastée par la peste. En 1628, la maladie a décimé un quart de la population biennoise. Cette pandémie a marqué l'histoire, la science et les mémoires. L'impact de son passage dans l'arc jurassien sera présenté ce soir à 19h30 dans le cadre d'une conférence au CIP, le Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Alain Bosson est spécialiste, historien spécialisé dans l'histoire de la médecine. Il revient sur l'importance de la pandémie en ville de Bienne.
Pour le cas de la ville de Bienne, on a, grâce aux observations d'un Neuchâtelois, Abraham Chaillet, une épidémie en 1628 à Bienne a causé la mort de quelque chose comme 400 personnes, alors que les habitants sont environ 1600-1700. Donc on a des chiffres, quand la peste passe, ça peut donner de la mortalité de entre 10 et 25%. Et ça revient tous les 5 ans, tous les 15 ans. Des fois, il y a une pause. Donc, c'est vraiment des populations qui doivent être vraiment épuisées par les passages successifs de ces épidémies.
Et notez que l'arc jurassien recense plusieurs cimetières avec des pestiférés, notamment au Boëchet et à Saint-Brin.
Vous écoutez RFJ, il est 12h26.
Sport.
Young Boys n'a pas démérité lors de la première journée de Ligue des Champions, mais ça n'a pas suffi aux hommes de Raphaël Vicky pour approcher et accrocher Leipzig hier au Wangdorf. Ils se sont inclinés 3-1. IBE a pu mesurer l'écart qui les séparait d'une belle cylindrée allemande. Le défenseur d'IBE, Loris Benito, estime après ce premier match que son équipe a encore beaucoup à apprendre.
Surtout aux balles arrêtées, on leur a donné trop d'occasions aux balles arrêtées. C'est clair, ils ont des très bons tireurs, mais quand même, on était trop passifs sur les ballons arrêtés. Et après, certains choix. Je pense au 3-1 qu'eux, ils marquent sur un contre-attaque. Une minute avant, on a le ballon et on a peut-être une occasion pour marquer le 2-2. Voilà, c'est ces petites choses qui font la différence sur ce niveau. Et on va certainement apprendre de ce match.
Young Boys devra notamment améliorer ses entames de match. Les Bernois sont passés totalement à côté des premières minutes de la rencontre. Le gardien Anthony Racioppi en est conscient.
Ouais, je pense qu'au début, on avait un peu peur les 10 premières minutes. Mais après, comme vous avez pu le voir au fur et à mesure du temps, on s'est remis dedans.
Vous utilisez clairement, Anthony, ce match aujourd'hui comme expérience pour progresser pour la suite, parce que j'imagine qu'on apprend beaucoup aujourd'hui.
Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le premier match, c'est une expérience et il faut apprendre de ce match-là et puis on va retourner au travail pour faire mieux pour les autres.
Et le prochain, ce sera un match à Belgrade. C'est déjà, on ne va pas dire un match décisif, mais c'est déjà un match très très important si on veut viser notamment la 3e place du groupe.
Oui, bien sûr. Après, on sait que tous les matchs en Ligue des Champions sont importants, que ce soit Belgrade ou Manchester City aussi. Donc, on sait que là-bas, c'est une ambiance particulière. Donc, on va tout faire pour ramener les 3 points.
Young Boys disputera son prochain match de la Ligue des Champions dans 2 semaines sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. Un gros morceau pour le HC Franche-Montagne ce soir en Mayo K-League. Les Jurassiens se déplacent à 20h à Thun, premier de la saison régulière et finaliste des playoffs la saison dernière. Les Taignons tenteront néanmoins d'enchaîner après leur victoire inaugurale à la maison le week-end dernier. Le résultat sera retrouvé ce soir sur rfj.ch et demain dans la matinale. Et c'est ainsi que se termine cette édition et je vous souhaite un bel après-midi.